Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Je suis également très honorée de participer à ce colloque et je remercie François Desroches de m'y avoir invité. Cela m'a donné l'occasion de lire en détail deux ou trois articles de Paul Casanova dont j'avais entendu parler, mais sur lesquels je ne m'étais jamais penchée. Donc, comme l'a rappelé François Desroches ce matin, en 1898, Paul Casanova devient directeur adjoint pour les études arabes de l'Institut d'archéologie orientale au Caire. Il avait déjà été auparavant membre de la mission permanente qui existait depuis 1880, comme l'attestent ses publications au début des années 1890 dans les mémoires publiées par les membres de la mission archéologique française du Caire. Depuis 1897, l'Institut est hébergé dans un bâtiment dû à l'architecte Ambroise Baudry, situé rue Antikana, à proximité du futur musée des Antiquités égyptiennes. En 1901, sous l'impulsion du directeur de l'Institut, Émile Chassina, une nouvelle revue, le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale, BIFAO, est lancée. Casanova y publie trois articles qui concernent, à des titres divers, le copte. Il n'est pas coptisant lui-même, du moins pas au premier chef, mais il est entouré d'égyptologues, pour ne citer que Émile Chassina et Pierre Lacot, qui eux le sont tous à l'époque, c'est la norme. Il peut également s'appuyer sur les travaux des conseils de quelques orientalistes spécialistes de copte, tels Étienne Quatremer au siècle précédent, auteur des Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte et sur quelques contrées voisines, paru en 1811, Émile Amilino, qui a tant fait pour la diffusion et l'édition de la littérature copte, et Henri Hiverna. Cela lui permet d'utiliser les données du copte pour ses propres intérêts scientifiques, qui sont surtout linguistiques et topographiques. Comme on peut le voir dans l'introduction à son deuxième article, je le cite, « L'histoire de l'Égypte musulmane et particulièrement de sa capitale, où se passent les événements relatés par le document en question, est le sujet de mes études journalières depuis plus de 10 ans. Il est donc tout naturel que je sois en mesure d'apporter quelques éclaircissements nouveaux. » Fin de citation. Rien ne fait mieux imaginer ce milieu stimulant et cette époque où la communication entre savants avec des moyens bien moins avancés qu'aujourd'hui semble facile et efficace que l'introduction du premier article de Casanova. La bibliothèque de l'Université de Cambridge possède un curieux fragment écrit en caractère copte que Lepage Renouf a signalé en 1889. Ce savant avait parfaitement reconnu que le texte en était de langue arabe et il en publiait deux lignes comme spécimen et donnait la transcription arabe de quelques mots. Il en avait communiqué une copie à M. Amelino, qui en 1891 le publia en entier et en donna une transcription arabe et une traduction, mais avec d'importantes lacunes. Cette copie m'ayant paru défectueuse en quelques points, j'écrivis à M. le chancelier de l'Université de Cambridge pour demander une photographie de ce document. Avec une bonne grâce et une libéralité dont je suis heureux de le remercier très vivement, M. le chancelier me fit parvenir par l'aimable intermédiaire de M. Jenkinson, bibliothécaire de l'université, la photographie qui est reproduite ici. Les intérêts de Casanova l'ont fait s'intéresser dans les articles du BIFAO à deux manuscrits qui relèvent du bilinguisme copte-arabe. Or, en 2026, ces deux manuscrits restent des unicas, et ils ont tous deux suscité jusqu'à une date toute récente des travaux qui, en poursuivant des buts différents, se fondent encore sur ceux de Casanova. Nous allons regarder cela d'un peu plus près. Mes compétences en arabe étant des plus limitées, je sollicite votre indulgence pour toute naïveté, approximation ou erreur qui pourrait m'échapper. Premier article s'intitule « Un texte arabe transcrit en caractère copte ». Cet article se fonde sur les deux feuillets de l'Université de Cambridge que je viens d'évoquer, qui contiennent un texte arabe transcrit en caractère copte. Casanova ne s'attarde pas sur la description matérielle de ces feuillets, ce n'était pas l'usage à l'époque, sinon pour signaler que l'écriture en est très nette, les mots soigneusement séparés par des points, et que, au-dessus d'un grand nombre de caractères coptes, des lettres arabes sont écrites d'une encre plus pâle et d'une main assez peu exercée. Je précise que les plus fréquentes de ces lettres sont le kaf, le kof et le hain. Il est impossible, poursuit Casanova, de dire si ces lettres arabes sont de la même main que les lettres coptes. De toute façon, elles ont été écrites après coup. Casanova indique ensuite que le texte en question a été identifié par Amelino grâce à un parallèle latin comme un extrait des Verba Seniorum, un morceau de littérature monastique donc, connu aussi sous le nom Apophthegme des Pères. Le contenu n'est certes pas ce qui intéresse le plus Casanova, mais il lui permet d'appuyer ses analyses et ses conclusions, qui portent sur les points suivants. D'abord, le texte copte résulte selon lui d'une dictée. Il le voit à la coupe irrégulière de certains mots, à l'absence de certaines lettres finales. De ce fait, il est un témoin intéressant de la prononciation de l'arabe en Égypte à l'époque du document, et cette prononciation est analysée ensuite en détail. Quelle est justement la date du manuscrit ? Le transcripteur, dit Casanova, devait probablement ignorer les lois de l'orthographe arabe. Je ne serais pas éloigné de croire qu'il ignorait même la langue et que le document que j'étudie n'était pas autre chose qu'une dictée pour exercer les coptes à la langue arabe. Dans ce cas, il faudrait admettre que le document date de l'époque déjà ancienne où l'arabe n'était pas la langue usuelle de tous les coptes. Par ailleurs, Casanova relève des parenthèses stylistiques entre l'extrait des Verba Seniorum qu'il analyse et la version arabe traduite du copte de la vie de Pacôme. Il en conclut que les deux textes doivent être contemporains et attribuables au Xe siècle, contrairement à l'opinion d'Amelino, qui situait la version arabe de la vie de Pacôme au XIIIe ou XIVe siècle. La transcription que j'ai étudiée, dit-il, aura par suite été faite vers cette même époque, Xe siècle. Nous verrons que cette datation est probablement un peu haute. À la suite de Casanova, le document a régulièrement attiré l'attention des linguistes au courant du XXe siècle. Parmi les coptisants, William Worrell en 1931 et Helmut Zatzinger en 1972. Ces deux savants pouvaient se fonder sur une quantité de textes plus importante, puisqu'entre-temps, 35 nouveaux feuillets du même manuscrit avaient été publiés en 1926 par Georges Sobhi. Ces fragments provenaient du monastère de Saint-Macaire, en Basse-Égypte. Puis vient l'étude fondamentale de Joshua Blau, Some Observations on the Middle Arabic Egyptian Text in Coptic Characters, en 1979, qui établit les points suivants. Concernant l'état de langue, en réalité, notre texte appartient d'un point de vue linguistique à la catégorie bien connue de l'arabe chrétien médiéval que l'on peut qualifier d'arabe moyen non standard. Son ou ses auteurs avaient l'intention d'écrire en arabe classique, mais que ce soit par ignorance ou par négligence, des éléments de l'arabe moderne s'y sont glissés. Toutes les caractéristiques de ce moyen arabe sont ensuite analysées par Blau en détail. À propos des lettres arabes suscrites, et on savait désormais que c'est à l'encre rouge que ces lettres avaient été suscrites, Blau précise, on aura plutôt tendance à les considérer comme des ajouts ultérieurs apportés par un scribe pour qui les lettres arabes, plutôt que les caractères coptes, constituaient le seul moyen naturel d'écrire l'arabe. C'est lui, et non le scribe d'origine, qui a eu du mal à interpréter correctement les lettres coptes et qui, par conséquent, a ajouté les lettres arabes suscrites. Enfin, Blau conteste que le texte résulte d'une dictée. Pour lui, les signes séparateurs sont d'après lui utilisés pour couper soit les mots, soit les syllabes, d'où l'impression de coupes irrégulières. Une découverte récente, faite par les moines du monastère de Saint-Macaire, donc en Basse-Égypte, dans le désert du Wadi Natroun, redonne toute son actualité à ce manuscrit et permet de revenir sur certaines analyses de Casanova. Un article donc de Marcos El Makari dans un récent volume de Mélange en honneur de Anita Kla. Cet article nous donne l'état du manuscrit actuellement à la faveur des découvertes et redécouvertes. Donc 70 feuillets en sont connus désormais, répartis entre Cambridge, le musée copte du Caire, la bibliothèque universitaire de Hambourg et le monastère de Saint-Macaire. Les observations linguistiques n'apportent rien de nouveau, mais l'auteur de l'article maintient l'hypothèse d'un texte dicté. Il fait du manuscrit une description codicologique et paléographique assez développée et son analyse paléographique l'amène à attribuer le manuscrit au XIIe siècle. Je dirais que la période XIIe-XIIIe siècle est effectivement plausible. Plus de précision, c'est difficile en l'absence de colophon. On apprend concernant le contenu du manuscrit qui jusqu'au début du XXe siècle avait été passablement négligé, grâce aux derniers fragments découverts par les moines, dans lesquels se trouve le titre Bustan el Rurban, Jardin des moines, qu'il s'agit donc d'une version de ce texte connu de la traduction arabe. El-Makari pense être en mesure d'établir que le texte est un proto-Bustan, c'est-à-dire qu'il représente une version plus proche du grec et du copte que les témoins arabes postérieurs. Enfin, il analyse la fonction du document qui, selon lui, n'est pas facile à cerner. S'agit-il d'une initiative individuelle ou collective? A-t-on affaire à un usage privé ou public? L'auteur de l'article envisage la dimension identitaire du document. L'écriture copte resterait une écriture de prestige ou encore sa dimension scolaire sans réellement trancher. On peut porter au débat une indication qui se trouve dans la Coptique Encyclopédia à l'article Apophthegmata Patrum. Dans les monastères, la lecture du Jardin des moines a toujours occupé une place privilégiée lors de repas communs. C'est encore aujourd'hui une pratique quotidienne au monastère de Saint-Macaire. On pourrait imaginer un livre de lecture en langue arabe, vu la disparition du copte parmi la majorité des moines, mais en caractère copte, qui garderait au livre sa dimension chrétienne. Ce manuscrit témoigne en tout cas d'une tentative pour transcrire l'arabe en caractère copte, une étape supplémentaire après la période des 10e-11e siècles pour laquelle on peut observer dans divers types de documents coptes l'absorption d'un nombre croissant de mots arabes. Mais il faut noter que même s'il s'est considérablement étoffé, ce manuscrit reste un exemple quasiment unique de transcription d'un texte arabe en copte. On peut lui ajouter les 6 premières lignes d'un document magique bilingue provenant de la Géniza du Caire, également analysé par Blao en appendice de son article. À cet égard, la remarque de Blao me semble aller trop loin dans la généralisation quand il dit « La raison de l'utilisation de l'écriture copte dans ce cas est similaire à celle qui motive l'utilisation du Karchouni par les chrétiens ou de l'écriture hébraïque par les juifs ». Les coptes, dans la mesure où ils étaient lettrés, utilisaient l'écriture copte pour écrire le copte et ne sont pas passés aux caractères arabes lorsqu'ils ont commencé à écrire cette langue, mais ont plutôt continué à utiliser leur propre écriture copte. En fait, cet usage ne semble pas du tout avoir été productif en copte. Le deuxième article s'intitule « Notes sur un texte copte du XIIIe siècle ». Casanova y étudie un texte connu sous le nom de « Martyr de Jean de Fanny Joyt ». Contrairement à la précédente, cette étude ne se fonde pas sur le manuscrit original conservé au Vatican depuis le début du XVIIIe siècle, mais sur une copie faite à Rome dans le courant du même siècle par le copte Raphaël Tucci. Copie qualifiée de « défectueuse » sur laquelle Émile Amelino s'est appuyé pour publier et traduire le texte en 1897 et dont Casanova dépend, même s'il s'efforce d'en corriger certains défauts. Le texte fut finalement publié d'après le manuscrit Vatican Copte 69 en 1924 par Balestri et Iverna et une traduction latine en fut donnée en 1950 par Henri Iverna. La particularité de ce texte, qui en fait un unicum, est qu'il ne concerne pas, comme c'est le cas de tous les autres textes coptes de ce genre, un martyr des persécutions des 2e-3e siècles, mais un néo-martyr du début du 13e siècle. Écoutons Casanova nous décrire ce texte. C'est le panégyrique de Jean de Fanny Joyt, qui, de chrétien, s'était fait musulman vers 1190 de notre ère. Pris de remords, il voulut en 1209 faire une abjuration publique. Coptes et musulmans essayèrent en vain de le faire revenir sur une telle détermination qui devait fatalement lui coûter la vie. Le sultan Al-Kamil lui-même s'efforça de lui faire entendre raison, mais dut, devant son obstination, se conformer aux prescriptions formelles de l'islamisme. Il le fit mettre à mort le jeudi 4 Pachans 925 des martyrs, soit le 29 avril 1209. Le récit est censé avoir été composé pour le premier anniversaire de la mort du martyr, soit en 1210. Or, au XIIIe siècle, la création littéraire en copte est quasiment éteinte. Elle se réduit à quelques compositions poético-liturgiques tardives. Ayant pris l'avis d'Henri Hiverna, qui lui confirme que le texte de ce martyr est mauvais, de basse époque et fourmi de fautes, il serait désirable qu'on pût retrouver un texte arabe qui aurait quelque chance d'être correct, Casanova entreprend de démontrer que le document a été écrit primitivement en arabe et que l'auteur copte l'a traduit littéralement, au moins dans toute sa partie narrative. Le début, ajoute-t-il, qui d'ailleurs est hors de ma compétence, peut être d'origine purement copte. Sur les 15 feuillets du texte, de fait, les trois premiers sont un long préambule nourri de citations bibliques. Dans la partie narrative, Casanova retrouve un style qui lui rappelle celui des katibs de la chancellerie arabe vers la fin du XIIe siècle. Mais il va surtout s'attacher à analyser en détail les indications linguistiques, historiques et topographiques que fournit le texte. Tout ce qui concerne la topographie et qui tourne autour du Caire, où se déroule l'action, sera repris et développé dans le troisième article du Bifao et mis en comparaison avec l'ouvrage d'Amelino, « La géographie de l'Égypte à l'époque copte », paru en 1893. Au terme de son analyse, Casanova propose le scénario suivant. Un scribe copte de la chancellerie du sultan Ayoubid al-Kamil, qui avait joint ses efforts à ceux de ses collègues et du médecin Abu Shaker pour détourner le martyr de son funeste dessein, avait suivi de près toutes les péripéties du drame, avait recueilli tous les témoignages et s'était personnellement passionné pour cette affaire, en rédigea sur le champ une relation dans le style arabe élégant et recherché de l'époque. Un pieux copte résolut d'en faire le sujet édifiant d'un sermon qu'il composa en entier dans la langue copte en traduisant littéralement cette relation. Il y aurait dans ce fait, à mes yeux, l'indice d'une tentative intéressante de faire revivre la langue copte qui disparaissait peu à peu. Quasiment oublié ou négligé pendant une centaine d'années, le texte attire de nouveau l'attention des coptisans à la fin du XXe siècle, notamment avec trois noms, Leslie McCool, Annie Takla et Jason Zaborowski. Tous cherchent à prendre position par rapport à l'hypothèse de Casanova. Dans son article de 2000, McCool reproche à Casanova de voir les choses comme un spécialiste de l'arabe musulman et de n'avoir pas compris la portée du texte. Takla, en 1999, analyse les citations bibliques et le vocabulaire, remarque la proximité avec le vocabulaire liturgique de l'Église copte à l'époque, mais surtout relève un certain nombre de phrases qui constituent des attaques et des insultes à l'égard de musulmans et qu'il aurait été, selon lui, suicidaire d'écrire en arabe. Même en copte, selon lui, c'était dangereux, d'où la présence d'un certain nombre d'invocations placées dans la marge supérieure de manière un peu inhabituelle, « Dieu sauve-moi, Dieu écoute-moi, Dieu aide-moi », etc., qui lui semblent exprimer la crainte du copiste écrivant de telles choses. Comme le remarque Zaborowski dans sa thèse de 2003, publiée en 2005, qui est une nouvelle édition de ce texte, les deux travaux précédents n'ont pas de base philologique suffisante et ne répondent pas réellement à l'hypothèse de Casanova. L'exercice est particulièrement difficile parce que le moyen arabe de cette époque n'a pas l'uniformité de l'arabe classique, ce qui fragilise les comparaisons. Il est délicat, d'après lui, de distinguer un arabisme d'une incorrection ou d'une maladresse du copte. Par ailleurs, en l'absence d'un contexte littéraire copte pour cette époque, on ne sait pas grand-chose de ce qu'est devenue la langue. Zaborowski, qui est lui aussi plutôt en faveur d'un texte composé en copte, consacre un chapitre à analyser les arguments de Casanova et y répond en s'attachant à montrer d'une part que la syntaxe copte est dans l'ensemble correcte, d'autre part que les erreurs ou maladresses ne sont presque jamais des arabismes. Concernant la syntaxe copte, le seul point sur lequel je peux émettre un avis, l'argumentation de Zaborowski est plutôt convaincante. Et il subsiste de fait pas mal d'erreurs pour lesquelles on est en peine de décider s'il s'agit de fautes du copiste ou de traits de la langue copte à cette époque. Comme il a été dit, le contexte littéraire est inexistant. Certains traits, cependant, par exemple l'omission de certaines particules, évoquent l'état de langue des lettres du Xe-XIe siècle, récemment analysé par Vincent Walter dans sa thèse de doctorat, soutenue à Berlin il y a un an. Mais les lettres sont très fragmentaires et ne donnent pas l'occasion d'une étude de syntaxe à grande échelle. Un autre corpus sur lequel Casanova s'est largement appuyé dans le choix des mots arabes, qui lui semble être derrière les mots coptes, est celui des manuscrits lexicographiques coptes arabes, connus sous le nom de Scalae. Il utilise particulièrement le manuscrit publié par Athanas Kircher dans Lingua Egyptia Restituta, publié en 743, ainsi que deux manuscrits de la BNS, dont je vous ai mis un exemple à l'écran. Il faut noter qu'aucun de ces manuscrits n'est antérieur au XIIIe siècle, donc tous sont postérieurs au martyre de Jean de Fanny Jewett. Comme ils correspondent à une tentative de préservation de la langue copte en voie d'extinction, le martyre de Jean, qu'il ait été traduit de l'arabe composé en copte ou, pour ainsi dire, un peu des deux, pourrait aussi s'inscrire dans une telle tentative et démontrerait que la connaissance du copte était encore suffisante dans certains milieux pour sous-tendre les travaux d'Escalay. Pour conclure cette partie de la discussion, je voudrais citer l'analyse que fait Jason Zaborowski d'un passage du texte pour lequel Casanova s'était livré à une rétroversion du copte en arabe. Il s'agit de la description de la foule qui vient assister à l'exécution de Jean. À gauche, la traduction du copte par Amelino, citée par Casanova. À droite, la traduction de Casanova d'après sa rétroversion en arabe. Casanova fait l'hypothèse que l'énumération est construite sur une série de paires lexicales et qu'elle répond aux règles de la rime en arabe. Il propose également, pour certains mots, des traductions plus proches que celles d'Amelino des réalités sociales de l'époque. Zaborowski répond à propos de la rime qu'il manque la coordination. Si Jean de Fanny Jewett était une traduction copte littérale du texte arabe source proposé par Casanova, dit-il, le copte reproduirait vraisemblablement le wa arabe par nem ou or, qui signifie et en copte. En arabe, une telle liste ne serait pas écrite sans la conjonction wa pour relier les éléments. Soit l'auteur ou le traducteur de Jean de Fanny Jewett maîtrisait suffisamment le copte pour remettre les conjonctions arabes dans la traduction, soit il a rédigé l'ouvrage en copte. Quant au vocabulaire, les mots employés en copte montrent, selon Zaborowski, que l'auteur de Jean de Fanny Jewett utilise un vocabulaire désuet pour décrire une société arabisée, mais pas forcément qu'il traduit de l'arabe. Dans les années qui ont suivi la publication de la thèse de Zaborowski, le débat s'est prolongé grâce à plusieurs articles très éclairants de Christian Descobert. Ce dernier, pas tout à fait convaincu par l'hypothèse d'un texte composé en copte, rappelle que le texte n'est pas homogène et qu'on pourrait bien concevoir une partie composée en copte, selon les traductions de l'homilétique dans cette langue, et un récit central traduit de l'arabe. La question ne peut probablement pas être tranchée de manière définitive. Pour tenter de dépasser cette question et comprendre la portée et la signification de ce texte, Descobert s'attache à le replacer dans son contexte de production, à savoir le monastère de Saint-Macaire dans le désert du Wadi Natroun. Ce monastère est au début du XIIIe siècle un haut lieu de la tradition, sinon de la réaction, face à l'attitude d'autres pans de la communauté chrétienne, y compris l'Église. Dans le texte qui nous occupe, cette dernière est quasiment absente, tandis que la position des notables chrétiens proches du pouvoir musulman est illustrée par la figure du médecin Abou Shakir. Ce dernier tente à plusieurs reprises de dissuader Jean de se livrer au martyr, qu'il considère comme un scandale. La production de ce texte réactif, écrit Descobert, n'a pas été celle d'une supposée chrétienté égyptienne, mais d'un milieu très spécifique, un milieu où l'on pouvait encore, c'est le thème central de la première partie doctrinale du martyr, donner un sens moral au malheur du temps, parler des Arabes comme d'hommes sans foi ni loi, expliquer l'arabisation des chrétiens comme une contamination, une pollution, évoquer la femme musulmane du converti Jean de Fanny Jewett comme une terrible séductrice. Il se trouve que dans le courant du XIIIe siècle, la bibliothèque du monastère de Saint-Macaire, dont les manuscrits ont été copiés entre le IXe et le XIIIe siècle, tous dans le même style, a fait l'objet d'une refonte. Homélies et textes hagiographiques déjà existants ont été regroupés et réorganisés en recueil, peut-être pour s'adapter à un calendrier liturgique. Encore en cours d'étude, cette réorganisation se voit dans certaines indications portées en marge supérieure. Dans ce processus, les 16 feuillets du martyre de Jean de Fanny Joyt ont été intégrés dans un recueil composite de 233 feuillets qui est arrivé à Rome en 1715 avec d'autres manuscrits de la même bibliothèque et constitue désormais le Vatican Copte 69. Il faut peut-être voir une trace de cette intégration liturgique dans la date qui figure dans la marge supérieure de la page de titre, quatrième jour de Paschens, soit 29 avril. Jean de Fanny Joyt n'a cependant pas été intégré au sanctoral copte, soit parce qu'il était trop tard, soit parce que son histoire n'avait pas été admise par les autorités ecclésiastiques. Christian de Cobert qualifie ce texte de « réactif ». Réactif, il l'est aussi sur le plan linguistique, puisqu'il est transmis en copte à une époque où la création littéraire dans cette langue est pour ainsi dire éteinte. Et on ne peut s'empêcher de le rapprocher de ce point de vue du premier document, la version arabe du Jardin des Moines, transcrite en caractère copte, également un produit du monastère de Saint-Macaire. Deux manifestations d'une tentative de préservation de la langue et de l'écriture copte dans un contexte bien particulier. Casanova ne pouvait pas savoir que les deux manuscrits qu'il analysait venaient de Saint-Macaire. Il avait cependant repéré et regroupé l'étude de ces deux témoins peu ordinaires qui sont encore actuellement au cœur des problématiques du bilinguisme copte-arabe au Moyen-Âge. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.